Voilà, donc vous avez toutes abordé d'une façon différente d'ailleurs à chaque fois, hein, la façon dont le théâtre pouvait constituer une forme de mobilisation finalement. Hein, vous étiez peut-être presque plus sur la question de l'attention que sur la question toujours de la médiation numérique ou aux médias, et en fait ça ressurgissait parce que tout simplement ça fait tellement partie de nos vies et de nos imaginaires que voilà. Alors moi j'ai pas forcément de questions, est-ce que dans la salle oui, Maxime?
Alors j'ai plusieurs questions, mais je vais me concentrer juste sur deux questions principales. La première, c'est sur la toute dernière intervention. En fait j'étais assez frappé par la performance de Jeff Charlie dont vous avez parlé, et puis l'histoire de sa destruction. Du contrôle social, de la ségrégation urbaine, en mettant en place un dispositif de contrôle social et de ségrégation urbaine, peut être vécu de manière assez dure en réalité par les habitants. Voilà. Donc, moi j'aurais une lecture presque inverse à celle que vous proposiez, et c'est vrai que je suis peu étonné que l'installation ait été détruite. Voilà. Alors j'avais une deuxième question pour cette fois la deuxième intervention. Vous avez parlé du rapport que les enfants avec lesquels vous travaillez ont avec l'image, en décrivant comme un rapport problématique. Vous avez évoqué des images obsédantes. Et j'ai cru entendre, dans la manière dont vous en parliez, la constitution du rapport même à l'image comme problème, là où moi, j'aurais eu tendance plutôt peut-être à le lire comme symptôme. Et ma question, plus que problème, et ma question était la suivante. Vous avez un tout petit peu évoqué la psychanalyse, mais est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à quel point vous utilisez les outils de la clinique psychanalytique qui auraient par exemple tendance à considérer que le symptôme n'a pas nécessairement à disparaître, le symptôme n'a pas nécessairement à être soigné, puisque le symptôme il est là précisément parce qu'il permet de tenir. Donc jusqu'à quel point ces images ne permettent pas aussi à ces enfants de tenir?
Alors, votre première question, je n'ai pas vraiment compris la question en soi.
C'est la dimension de contrôle, dans la mesure où il y a un contrôle d'identité. Est-ce qu'il y a des populations qui ne se sont pas senties stigmatisées? J'imagine que
bah, oui.
Je vais juste demander pour compléter sur la performance que vous comprenez pas bien. Peut-être ce serait éclairant, si vous l'avez vraiment vu justement cette performance, de comprendre qu'est-ce qu'il a comme interaction avec les personnes au checkpoint et comment il aborde les questions et quel type de parole ça permet. Parce que là où je rejoins Maxime, c'est que là, quand on voit juste ce que vous en présentez, pas la performance, on ne saisit pas s'il renverse justement tout l'ordre social, ce qui s'y passe et quel nouveau rapport il aurait avec les habitants, ou s'il renforce un dispositif qui peut devenir du coup violent pour les habitants. C'est cette ambiguïté-là qui vient pas qui vient du manque de temps de la présentation.
D'accord.
Qui est un peu en suspens aussi pour qu'on comprenne mieux.
D'accord. Alors effectivement, vous pouvez voir vraiment les détails, les photos sur le site de l'artiste. C'est pour ça que j'ai insisté sur le site. Et en fait, pour moi, le travail artistique, c'était accentuer un fait réel, social et urbain qui existait dans cette zone géographique. Ce n'était pas pour faire semblant ou renverser les parties, c'était juste pour mettre son doigt sur un fait réel qu'on ne voit pas forcément, de rendre visible l'invisible.
Pardon, si je peux juste rebondir, mais je trouve qu'on touche exactement à la critique que fait Olivier Neveu dans son livre Contre le théâtre politique, c'est-à-dire que la reproduction de la violence n'est pas nécessairement la meilleure condition de sa critique, c'est simplement la reproduction de la violence. Et quand vous dites que ce type de violence sociale-là est invisible, la question c'est aux yeux de qui est-il invisible? Sans doute pas aux yeux des habitants, qui la vivent au quotidien.
Je suis pas là et j'ai pas exemplé, enfin j'ai pas montré l'exemple pour défendre l'artiste ou son travail artistique. C'était juste une illustration pour parler de mes questions. Moi je ne suis pas certaine. Mais si je veux rebondir vraiment sur votre question qui s'éloigne aussi de mes propos, je ne suis pas certaine que les habitants se rendent compte effectivement de ces limites de même façon qu'on peut voir d'un point de vue objectif ou neutre. J'ai beaucoup travaillé avec les habitants en difficulté dans la région parisienne ou dans d'autres villes. Et souvent, ce que j'ai constaté personnellement, ils ne se rendent pas compte de cette, entre guillemets, injustice ou d'autre chose. Ils pensent que c'est comme ça. Et souvent, quand il s'agit d'un public immigrant, ils sont tellement enfermés dans leur propre monde que parfois, ils n'ont même pas la conscience que notre vie est possible. J'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là et aujourd'hui, je vis à Clermont-Ferrand. Juste pour vous donner une idée, il y a un quartier problématique qui est à une station de tram du centre-ville. Et à pied, c'est 15 minutes, quartier Saint-Jacques. Et en fait, c'est un public principalement tchétchène et Afrique du Nord. Et Afrique centrale aussi, je suppose. Et en fait, les enfants de ce quartier, ils ne vont jamais dans le centre-ville, sauf une fois par an pour voir le sapin de Noël. Mmh. Et eux, ils pensent que c'est normal. Mmh. Et ça, c'est assez frappant. Après, le travail d'artiste, Emilio Lopez, je ne sais pas dans quelle mesure je ne défends pas son travail artistique. Et je ne suis pas dans une analyse de point de vue Olivier Neveu sur le théâtre politique, etc. Ça, pour moi, je voulais juste me concentrer sur la question de la médiation. C'est-à-dire, en faisant certaines choses, on saisit la réalité autrement. C'est tout. Après, on peut discuter effectivement sur, sur d'autres problématiques.
Alors, on va peut-être répondre à la deuxième question. Bien sûr que le symptôme est censé à la fois tenir et en même temps est marqueur d'une souffrance psychique. C'est un déplacement de la souffrance. Et surtout, dans cette idée, enfin, ce qu'on a remarqué avec ces enfants et qui rejoint ce que Tamara disait, c'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher à des images et que ces images-là font forcément un sens, ont un sens caché. Bien sûr, donc qu'elles font symptômes. Et que ici, ce qu'on remarque, c'est que finalement, ce qui est problématique, entre guillemets, c'est que elles sont marqueurs, la visualisation intempestive de ces images marque quand même un clivage entre la représentation et les affects, si on veut parler vraiment de psychanalyse. Et que du coup, cette scission entre les deux va créer quand même chez le sujet une déliaison psychique qui va se traduire au niveau relationnel. C'est-à-dire que ces enfants vont être tellement pris dans les images qu'ils vont oblitérer qu'il y a d'autres autour qui les écoutent, qui les entendent. C'est vraiment, vraiment, on voit comment le fait de raconter les images de manière très compulsive va les isoler dans une espèce de bulle et où, pour intervenir, c'est très compliqué de recréer la liaison psychique. Le travail là du théâtre, c'est vraiment d'essayer de remettre du lien entre l'affect et la représentation, c'est-à-dire c'est pas que les images sont problématiques, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser des images à fin d'éducation numérique, etc., ou de support de mise en récit de narration. Mais là, c'était pas ce cas-là. C'est-à-dire que ces images-là, elles ne font pas sens pour eux c'est-à-dire que le sens n'est pas conscientisé. Hein, donc on va essayer vraiment de mettre en lumière ce qu'il y a derrière ces images et ce qui les travaille profondément pour essayer vraiment que l'émotion, la peur, la crainte, les angoisses de mort, les angoisses d'abandon, de séparation puissent se dire. Et du coup, on va réinvestir l'image dans le corps et dans une scène, dans un scénario qui va permettre de faire sens.
Voilà. Je voulais rajouter aussi que évidemment, on n'a pas déployé l'idée du dispositif à un niveau analytique, mais pour nous, c'est pour ça qu'on a parlé du jeu, c'est le même travail qu'on peut faire en psychothérapie avec un enfant, c'est-à-dire à la place de l'association libre de l'adulte, il y a le jeu où effectivement, là, c'est ce travail de lier la représentation et l'affect, et donc à travers ces jeux théâtre, c'est un peu la même idée. Et puis, il ne s'agit surtout pas de diaboliser les images, effectivement, hein, parce que ça peut être la même chose avec un enfant qui est tout le temps en train de lire la même page sans cesse, où il y a un côté de décharge pure, figé, et l'idée, c'est justement de pouvoir élaborer et mettre un peu au travail.
Vous avez parlé d'une méthodologie quantitative pour mesurer donc, les effets de ce que vous aviez utilisé.
Qualitative.
Pardon, excusez-moi.
Quantitative.
C'est qualitative. Ah. Oui, j'ai bien, juste ça que je voulais dire, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce que vous avez observé avant et après de vos ateliers sur comment ça a été construit cette méthodologie.
Alors,
c'est
deux dispositifs. Alors, quand je parlais de méthodologie, quand je parlais de demande d'évaluation qualitative, c'était de la part du ministère de la Culture, non pas pour ce projet-là, mais sur les actions de médiation culturelle et artistique menées dans les institutions culturelles, ce qui fait qu'après qu'on ait mis ça en place, bien sûr, on a créé ce groupe-là. Mais alors sur la méthodologie, c'est une méthodologie bien sûr d'observation clinique, liée à des chercheurs qui sont en immersion, mais en participation non, en observation non participative des actions de théâtre, musique, danse et art visuel. Bien évidemment, avec toute cette question qu'un observateur, même s'il n'est pas participatif, va changer le cadre du dispositif même. Hein, donc voilà, il y a bien sûr un biais à cette méthodologie. Et puis, sur la méthodologie qualitative, un deuxième temps d'après-coup où on va interviewer les enfants et les adolescents un an après sur leur vécu et leurs souvenirs de ces ateliers de médiation artistique. Donc nous, là, ce qu'on a observé sur cette recherche, c'est on va dire trois choses. La première, c'est la force du dispositif, c'est-à-dire que ce dispositif culturel n'existe pas sans un cadre. Alors on a vraiment ici la question du cadre portée par Bleger, qui est un psychanalyste, à savoir qu'il faut créer des enveloppes et des feuillets d'enveloppes pour que ce puisse se libérer de manière tout à fait bienveillante la créativité de chacun des intervenants, et que chacun ait une place définie, c'est-à-dire l'artiste, le médiateur culturel, les enseignants, les enfants, et qu'à l'intérieur de ça va pouvoir se déployer des processus psychiques, à la fois groupaux, c'est-à-dire d'une possibilité d'être ensemble, de s'accepter dans la différence culturelle, dans la différence de son handicap, parce qu'il y avait des gens qui étaient des enfants ou des ados qui étaient porteurs d'un handicap. Donc voilà, on a pu observer qu'au niveau groupal, il y avait vraiment la possibilité, par la démarche artistique, de créer un être ensemble. Et deuxième point, au niveau individuel, on a perçu, et c'est ce qu'on observe aussi avec notre groupe, que ces médiations artistiques vont étayer à la fois un processus de transformation, c'est-à-dire un passage de l'informe à la forme, un passage de la perception à la représentation, un passage de l'angoisse diffuse à une narrativité, à une mise en récit,
Et aussi, bah, étayer le processus de symbolisation, c'est-à-dire de mise en sens de l'expérience vécue. Et cette mise en sens, elle est fondamentale puisqu'elle permet le processus de subjectivation, c'est-à-dire d'être sujet, ici et maintenant, au sein d'un collectif, au sein d'un groupe. Donc on voit bien hein, comment tous ces trois processus vont s'articuler hein, pour donner au sujet une place, une position dans un groupe.
Je voulais juste rajouter, à niveau des effets un peu concrets, entre guillemets, qu'on a pu observer, c'est aussi le lien avec la ville. C'est un peu l'objectif que nous, on avait. C'est ces enfants qui sont isolés, enfermés, tout seuls. Et notamment, il y a un des enfants dont on a parlé qui est d'origine chinoise. Au début, quand il est arrivé, il parlait un dessin animé. Vous voyez les enfants qui parlent, on ne comprend pas ce qu'il dit parce qu'il parle que comme s'il était dans un dessin animé. Et même, on avait des doutes. On s'est dit, cet enfant-là, on ne pourra pas l'avoir. Comment on va faire ? Parce qu'il ne peut pas suivre une consigne simple. Bon, finalement, c'est l'enfant qui était notre pilier du groupe. Et comme, en fait, au théâtre, il y avait les contes chinois, on a eu la chance qu'il y avait une super pièce de théâtre. Donc, il a pu faire le lien entre « Ah, voilà, c'est la langue chinoise que je connais. Ah, je sais ce qu'il dit. » Parce qu'il y avait un comédien qui parlait chinois. Et lui, c'était le seul à comprendre. Donc il a pu nous dire « Ah, il est en train de dire ça !» Et cet enfant, finalement, il est complètement inscrit. Il y va à la MC 93 régulièrement. Il connaît très bien la médiatrice, qu'il connaît très bien. Donc il y va au théâtre, vous voyez. Et c'est assez spectaculaire. Cet enfant qui était complètement enfermé, comment maintenant bah, il va, il vient, il... voilà. Donc c'est un exemple assez...
Les ateliers que vous menez, c'est sur une année complète ?
Oui.
Alors, c'est une année, mais avec scolaire. Reconductible en fonction des évolutions des enfants.
Les enfants, ils viennent par choix ou parce que, justement, un thérapeute les y amène ?
Par indication, c'est-à-dire que le CMP a un consultant, c'est-à-dire que c'est les parents viennent avec l'enfant voir un psychologue, un pédopsychiatre qui va être le référent et qui va gérer toute l'extériorité, donc le lien à l'école, le lien aux parents, etc. Et puis le parcours de soins. Et de cette évaluation-là, il l'oriente soit en thérapie individuelle, soit en orthophonie, en psychomote, ou dans les groupes à médiation.
Et après une première expérience, est-ce que les enfants sont redemandeurs ?
Ah oui, complètement.
Et puis il y a quand même un contrat où quand on les accueille, on leur dit voilà, ça va durer toute l'année, est-ce que vous êtes engagé pour l'année, etc. Et ils viennent d'eux-mêmes. Donc effectivement, après, on revoit ça chaque année.
On fait un point en fin d'année avec les parents, l'enfant, et puis en début d'année, en général, ils reviennent.
J'ai une question. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus sur sur le processus d'identification à la vidéo ? Est-ce que c'est seulement lié à un comportement physique ou il y a aussi d'autres choses ? Comment ça fonctionne, le processus ?
Vous voulez dire comment ils sont captés par tel ou tel dessin animé ou telle vidéo qu'ils vont regarder en boucle ?
Oui, et comment vous travaillez justement sur le fait qu'ils s'identifient à un tel personnage, une vidéo ? Voilà.
Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait lien avec les parents. C'est-à-dire qu'on demande d'abord aux parents, qu'est-ce que votre enfant... Parce qu'ils ne sont pas toujours verbaux, les enfants. Ils n'ont pas toujours accès à la parole. Donc, on demande aux parents qu'est-ce que leurs enfants regardent. Alors, ça donne aussi lieu à des parents qui se mettent à s'intéresser aux vidéos de leurs enfants. Ah bah oui, ils regardent Cars. Ah oui, ils aiment bien tel dessin animé. Ils regardent précisément tel bout du dessin animé en boucle. Et nous aussi, on se met à s'intéresser aux vidéos, parce que moi, n'ayant pas d'enfants, je vais peu voir les dessins animés, donc maintenant, je me suis remise à aller les voir. Et en fait, au début, on tâtonne en début d'année, où on montre des vidéos qui sont pas forcément les vidéos qui les intéressent. Et eux vont pouvoir faire des demandes. Donc il y en a un, par exemple, il n'arrêtait pas de nous dire « Pas ta couille, pas ta couille !» Et donc on a compris, au bout de quelques mois, que c'était « Pâte patrouille ». Et donc on a pu montrer Pat Patrouille et là cet enfant par exemple,
ils ont quel âge?
Ils ont jusqu'à 7 ans.
D'accord.
De 5 à 7 ans. Ouais. Et cet enfant il s'intéressait beaucoup au mouvement dans la vidéo, donc il aimait beaucoup les voitures rouges qui allaient vite, donc Flash McQueen notamment. Et donc il y avait sans doute quelque chose qui faisait résonance entre lui, parce qu'il était très sténique, il avait beaucoup de troubles du comportement, et donc il virevoltait toujours, et donc il regardait des vidéos qui étaient elles-mêmes très très virevoltantes, qui allaient aussi vite que lui, quoi.
Et c'est une question de, je sais pas, de d'identification, de jouissance, alors, par rapport
c'est là-dessus qu'on est en train un peu de travailler, d'accord, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo qui capte tellement l'attention, qu'est-ce que ça permet de mettre en mouvement. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une action suspendue, la vidéo. C'est-à-dire que ça génère le mouvement de l'action, mais il n'y a pas l'action. Et donc, ça crée quelque chose de très satisfaisant, parce qu'à la fois, on peut agir comme si on n'agissait pas vraiment.
Enfin, c'est une forme d'avatar, c'est-à-dire c'est l'avatar qui fait le mouvement et on peut rester assis et tranquille.
Ouais, c'est ça, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on leur dit « on va jouer maintenant ça », en fait, ça, ils se mettent à jouer très vite. En fait, on sent qu'il y a un matériel déjà prêt à l'emploi pour le jeu. Bon, alors ça demande, comme vous l'avez beaucoup bien mis en évidence, ça demande quand même un ajustement du cadre, parce que ce sont des enfants qui sont pas faciles. Donc, arriver effectivement à les conduire là où on veut et que ça soit pas de la décharge en excitation, en rage, en taper l'autre. Bon, ça demande du temps. Mais quand on sent qu'ils ont très envie de remettre en jeu ces vidéos-là. Donc c'est là-dessus qu'on est encore un peu à l'étude. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche si bien, le contenu vidéo ? Pourquoi il y a autant de choses qui sont prêts à remettre en jeu, quoi.
Merci. On va s'arrêter pour pouvoir avoir un peu de temps pour la performance. Donc on va prendre 10 minutes. Je voulais juste finir sur l'idée que, en fait, ce qui est intéressant dans la plupart de... En fait, dans toutes vos interventions... C'est que le théâtre, en l'occurrence, il y a un petit déplacement, on va dire, par rapport au thème, en fait, de la journée, même si on est dedans en même temps, hein, mais un petit déplacement. C'est-à-dire que, en fait, le théâtre ne vous sert pas exactement à interpréter ou à, comment dire, à faire une sorte de... On n'est pas du tout sur une thérapie des images ou sur une thérapie du numérique. En fait, le numérique et les images, vous les rencontrez, encore une fois, parce qu'ils sont ancrés dans nos vies sociales, politiques, économiques, etc. Et donc, ce que... pour moi, j'ai pas du tout entendu que pour vous, les images ou même le numérique, a priori, hein, comme hypothèse de base, était un problème. Mais qu'au contraire, c'est une sorte, pour moi, hein, et je trouve que c'est ce que vous exprimez, c'est une sorte de tiers-lieu, c'est-à-dire, je dis ça très rapidement, il faudrait vérifier si ça fonctionne, mais c'est-à-dire c'est un espace où se jouent des choses qui permettent d'avoir accès, en fait, à d'autres réalités, et c'est d'autant plus vrai que vous, en tant que psychologue, toutes les trois, psychologues cliniciennes, vous travaillez sur des enfants qui ont des problèmes de vulnérabilité qui ne sont pas les images, qui sont des problèmes relationnels, d'autisme, etc. Et l'outil image, enfin les images, les médias, les médiations numériques viennent comme à la fois des supports, en fait, pour vous permettre d'accéder d'une façon peut-être plus rapide, finalement, aux problématiques relationnelles ou sensorielles des enfants. Et le théâtre permet de déployer ce qui, dans les outils numériques, est hyper condensé et qui peut, justement, poser des difficultés relationnelles l'engager au sens de l'expression. Comment le numérique, à force de condenser, parce qu'on est sur des rythmes dont on a parlé hier, hein, de capitalisation, d'algorithmes, etc., qui n'ont rien de vraiment adapté au rythme humain de la pensée, et comment le théâtre peut permettre de déployer ces scènes. Donc hier, on avait des artistes qui nous expliquaient comment déployer cela sur la scène du théâtre, mais dans un propos artistique. Et là, vous nous avez expliqué comment déplacer cela avec une temporalité qui forcément est beaucoup plus longue, hein, thérapeutique, et donc ça peut aussi inspirer, je pense, d'autres approches ici. On a des étudiantes qui essaient de voir qui vont essayer de réfléchir à comment ces dispositifs de théâtre pourraient servir, pas forcément dans un contexte pathologique, hein, mais à créer des médiations autour du numérique. Et je pense que ça va nous aider. Et quant aux présentations que Yasaman vous avez faites, Pour moi, je me demandais d'ailleurs, on n'aura peut-être pas la réponse là tout de suite, hein, mais si pour l'artiste, le fait que le bâtiment ait été brûlé, est-ce que pour lui c'était un échec ou au contraire, est-ce que c'était aussi la poursuite finalement, dans un sens, de ce qu'il avait voulu mettre en œuvre, c'est-à-dire, dans des quartiers à Bruxelles, il n'y a pas un checkpoint, donc les quartiers sont quand même relativement poreux les uns aux autres, on se retrouve dans des... Et ensuite, probablement qu'il n'aurait pas fait cette performance après 2015 et après les attentats où le quartier de Smolensk est devenu stigmatisé à l'échelle européenne. Et donc, je pense que ça aurait pris un autre sens à ce moment-là. Quand il l'a fait, probablement, il venait montrer, symboliser la stigmatisation et l'interroger. Et, c'est vrai que ce qui aurait été intéressant.
Mais en tout cas, dans la plupart des performances, l'artiste, pour moi, crée un système et il laisse les participants, le public participant, à agir en fonction de leurs envies, etc. Et pour moi, c'est ça qui complète l'œuvre. S'il n'y avait rien à la fin, que bon, au bout de 4 jours, on dit bon, c'est bon, je range mes affaires et puis je m'en vais, je pense que la performance n'était pas complète. D'accord. En tout cas.
On va juste prendre. Oui, pardon.
Non, mais c'est juste une petite remarque par rapport aux images que les enfants en bas âge consomment. Et en fait, comme j'ai moi-même un enfant en bas âge, qui, comme tous les enfants, aime les dessins animés, je suis revenue vers les dessins animés que moi je regardais en tant qu'enfant. Et c'est juste un petit constat que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si. Il doit déjà y avoir des études peut-être là-dessus, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a un certain nombre de dessins animés très classiques, comme l'abeille Maya, par exemple, qui ont été retournés, remasterisés. Et en fait, ce qui me frappe là-dedans, c'est surtout que le débit des paroles a été très largement augmenté.
Et d'images aussi.
Et des images très brillantes aussi.
C'est
qui change et plus rapide.
C'est frappant.
Mais nous, maintenant qu'on s'est habitué à les ralentir, quand on les regarde au rythme normal, ça nous fait un effet. Et d'ailleurs, Peppa Pig est très intéressant parce qu'il est très lent, en fait. On se met tout d'un coup à avoir une attention au rythme. Effectivement, c'est beaucoup plus assuré maintenant dans les dessins animés.
C'est très assuré.
Et puis quand les enfants regardent les dessins animés, les anciens, ils trouvent que c'est trop lent.
Absolument.
Tom Jerry, tout ça.
C'est ennuyant.
C'est lent. Alors que pour nous, c'était rapide.
Oui,
à l'époque.
Tom Jerry, c'était rapide.
C'est ça. Au niveau des actions aussi, de la narration, il y a quelque chose qui a
qui été s'est accéléré.
Et en même temps, décomplexifié. C'est ça qui est frappant. Mais il y aurait une étude plus précise à faire là-dessus. Mais.
Il y a eu des recherches, notamment d'un chercheur espagnol, j'ai oublié le nom, il s'appelle Jesús González, je retrouve son nom, qui a travaillé sur l'adaptation justement de quel type de dessin animé pouvait être adapté aux enfants de moins de 5 ans, on va dire, et puis aux plus grands, et pourquoi. Et donc il en a fait une approche à la fois sémiologique et en même temps psychologique sur le. Et qui est en lien avec la question du rythme, et notamment des flashbacks aussi, de l'utilisation des flashbacks.
Et c'est très intéressant de se questionner sur l'impact que ça a, ou sur la réception par l'enfant. Ce que ça change dans la réception.
Et la capacité de compréhension. On va faire juste une mini pause pour avoir le temps. Donc, si on a 5 minutes
pour prendre
un petit café. Moi, j'ai l'impression que
c'est juste.
D'accord.